Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Passer du monde des multinationales à celui de la ferme, de la terre, des légumes et des fruits, eh bien ma femme d'aujourd'hui a sauté le pas et elle est fière et heureuse de l'avoir fait. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Samia Benjelloun, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Samia?
Ça va très très bien, merci beaucoup. J'espère que de votre côté aussi.
Oui, très heureuse de vous avoir et de discuter avec vous sur votre parcours de vie et ce qui vous a amené aujourd'hui à travailler la terre. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous identifiez en tant qu'agricultrice ?
Oui.
Oui, c'est comme ça que vous vous présentez ?
Disons que je suis agricultrice, oui, effectivement. Je cultive des légumes et des fruits au sein de la ferme que j'ai montée. Pardon.
Alors, agricultrice ou fermière, comment on vous appelle ?
Je dirais productrice agricole.
Productrice agricole. Alors, ce n'était pas ce qui était supposé être votre carrière au départ, n'est-ce pas ?
Exactement, exactement, effectivement. Rien à voir.
Rien à voir. Vous avez eu votre bac, vous êtes partie étudier en France. Vous avez fait quelles études ?
Alors, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et donc, après, j'ai rejoint donc, une école de commerce en France.
OK.
Et je me suis en fait spécialisée dans la finance d'entreprise au sein de l'école. Parce que j'adorais les chiffres. J'adorais les mathématiques.
Ouais.
J'aimais tout ce qui touchait en fait à la finance. Et donc j'ai fait des stages en audit. Par la suite en fait j'ai cherché un travail j'ai eu différentes opportunités, dont une opportunité en marketing. Et j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. Je me suis dit pourquoi pas le marketing aussi. Il y a d'autres éléments qui me parlent peut-être. Essayer autre chose. Et par la suite, en fait,
qu'est-ce qui s'est passé en fait des classes prépa, de l'école de commerce, de l'audit, des chiffres, etc., à travailler la terre et à produire des fruits et légumes et à les vendre. C'est quoi ce shift justement, Samia?
Alors, ce shift, ça a été en fait d'intégrer une entreprise dans l'agroalimentaire, une multinationale, dans le marketing. Donc j'étais responsable de produits qui servaient donc à l'alimentation. Et petit à petit, je voyais que c'était important en fait de s'alimenter naturellement. J'ai commencé à prendre conscience en fait qu'on est ce qu'on mange et que même des multinationales de renom,
ouais.
de renom s'intéressent justement à la naturalité des produits, au caractère naturel des ingrédients, parce que c'est la tendance. Et donc j'ai eu un premier éveil par rapport au manger naturel à ce moment-là.
D'accord.
Et il y a eu en fait la crise Covid.
Ok.
Et en fait, donc quand il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le confinement.
Vous étiez en France ou au Maroc?
Au Maroc.
Vous étiez au Maroc.
J'étais au Maroc.
Ouais.
Bon, j'ai un peu sauté les étapes, mais voilà. Là, je vous parle pour m'attarder du chiffre. Donc, pour être plus précise, le chiffre, ça a été vraiment au Maroc. Donc, pendant que je travaillais donc, pour cette multinationale, j'avais un rythme qui était très, très soutenu au sein de l'entreprise. Et comme j'avais déjà deux enfants à ce moment-là, deux enfants en bas âge, 4 ans et 6 ans, et j'étais enceinte d'une troisième petite fille. Et je me suis rendu compte que le rythme que j'avais ne me convenait plus, en fait.
Ouais.
C'est difficile de concilier, disons, le travail et surtout l'école à la maison. C'était très dur de concilier l'école à la maison et les réunions sur un PC à n'en plus finir. Donc, c'était compliqué pour moi à ce moment-là. Et j'ai commencé à me poser des questions. Elle me posait beaucoup de questions. Et je savais une seule chose, c'est que je ne pouvais pas continuer avec ce rythme-là. Et parallèlement, en fait, pendant le confinement, je vous disais qu'on parlait de manger naturellement. Ouais. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ? La première des choses qui me passent par la tête, c'est déjà de produire mes propres légumes, en fait. J'ai vu beaucoup, je me suis un peu documentée sur Internet et j'ai essayé de voir et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Et on avait un petit carré de jardin de 10 mètres carrés. Je me suis dit, ben, je vais essayer. J'ai essayé et j'ai adoré, en fait, le contact avec la terre. Et surtout, ça m'a rappelé un peu mon enfance parce que quand j'étais plus jeune, ma grand-mère avait une maison de campagne. On y allait tous les week-ends. Et en fait, le contact avec la nature a été vraiment révélateur pour moi. Et donc, et particulièrement la terre, le fait de donner de l'amour et de dans ce qu'on sème, en fait. Et du coup, le fait de récolter. Chaque jour, j'avais des petites surprises dans le petit lopin de 10 mètres carrés. Et j'ai adoré. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer de carrière et de peut-être entreprendre.
C'est génial, en fait, parce que sortir des chiffres ne vous a pas fait peur, en quelque sorte. Enfin, sortir des chiffres de la structure, vous dire très bien, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, etc. J'ai un super poste. Ben non, ben, je vais revenir à l'essentiel, je vais revenir à la terre.
Oui, effectivement. Bon, j'avais quand même un sentiment de peur parce que je vous avoue que étant depuis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait avoir un cadre, disons, préétabli. Le saut vers l'entrepreneuriat n'a pas été aussi instinctif que cela peut apparaître. Donc, en fait, j'ai toujours adoré être dans un cadre. Donc, c'est pour ça que même quand j'ai fini mes études, je voulais intégrer une fille nationale, je voulais gravir les échelons, voilà, suivre un certain parcours que j'observais autour de moi aussi, parce que finalement, on nous éduque aussi comme ça à l'école, et sans me poser trop de questions. J'avançais droit devant. Mais disons que avec la crise Covid et ce qui s'est passé, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il fallait que j'avais un petit appel, une petite voix intérieure qui me disait « Il faut que tu sortes de cette zone de confort, justement. » Peut-être que c'est le moment d'oser prendre des risques et entreprendre, disons, en toute liberté. Donc, et j'ai été en fait encouragée aussi par mon mari. Je pense que ça a beaucoup joué. Il m'a dit « Oui, c'est peut-être le moment, vas-y, lance-toi. »
Donc, il y avait deux bébés en même temps, voilà. En fait.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. J'étais enceinte, j'avais mon bébé et j'étais enceinte. Donc, j'attendais un bébé. Donc, une fois que j'ai ma petite fille, j'avais mon congé de maternité. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Donc, c'était le moment où j'avais essayé aussi, donc, comme je vous disais, de le contact avec la Terre. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment, en fait. C'est peut-être le moment de me lancer. Et ça a été un vrai travail sur moi-même, justement, parce que j'ai été éduquée aussi d'une certaine manière.
À l'excellence.
L'excellence. Et donc, aller vers un domaine que je ne maîtrisais pas du tout me faisait peur. Donc, j'ai essayé de un peu me rassurer en essayant de lire un maximum, en essayant de me former aussi. J'ai suivi une petite formation canadienne juste pour enrichir mes connaissances avec cet esprit, disons, scientifique que j'avais. Mais quand bien même je suivais ces formations, c'est qu'une fois qu'on est devant la terre et devant la graine et devant les conditions climatiques, parce que c'est finalement ce projet que j'ai fait, c'est aussi une forme de développement personnel pour moi. Justement, arrêter de me dire tout le temps « non, je ne vais pas y aller parce qu'il y a trop de risques ». Non, essayer de de passer au-delà de ces peurs, en fait. Mmh. Et ce qui est magique, en fait, avec le contact avec la Terre, c'est qu'il y a toujours des surprises. Et en fait, j'ai commencé à prendre goût à ces surprises-là. C'est-à-dire, moi, qui étais quelqu'un de très rationnel et qui a été éduqué avec le Indek.
Oui.
Là, ça a été une forme de...
De thérapie.
Je dirais que c'est vraiment une thérapie. Ça a été vraiment une thérapie pour moi parce que la nature est pleine de surprises et en fait, surtout quand on le fait de manière naturelle, parce que autant en agriculture conventionnelle, on met des pesticides, on maîtrise plus ou moins la production. Mmh. On s'attend à un certain niveau de productivité. Là, pour le coup, quand on cultive les choses de manière naturelle, il y a toujours des surprises et des belles surprises, pas que des mauvaises. Bien sûr, il y a des maladies qui arrivent, des choses, parfois les cultures sont endommagées, mais il y a aussi de belles surprises. On a par exemple, toute la partie biodiversité, en fait, le fait de favoriser la biodiversité, de croire en le fait que chaque petit être a son rôle à jouer dans ce monde. C'est quelque chose de magique. Et chaque jour, je voyais des choses. Donc, par exemple, une coccinelle. J'observais une coccinelle en train de manger des pucerons. Et les pucerons sont nuisibles à certaines plantes. Donc, ouais. Voilà, c'est des choses, c'est des découvertes continues qui sont très, très enrichissantes, disons.
Alors, on va revenir à ce que vous faites concrètement aujourd'hui et comment vous avez... Est-ce que, justement, le métier, le job que vous aviez avant vous a permis un peu de comprendre la chaîne? Parce qu'aujourd'hui, vous vendez, etc. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un élément qui est très important. Vous avez dit, j'ai toujours eu besoin d'un cadre. Et beaucoup de personnes qui nous écoutent se retrouvent peut-être dans vos paroles, ont envie de liberté, mais ont peur de ne pas savoir gérer cette liberté, ont peur de ne pouvoir exister qu'à travers un cadre. Un 8h midi, 2h, 6h par exemple, une semaine du lundi au vendredi, enfin voilà, il y a plusieurs un salaire qui tombe à la fin du mois, un salaire qui est là, des jours de congés fixes, bref, toutes ces choses-là. Comment vous avez pu faire pour gérer cette partie très importante qui peut être source et qui est source de crainte et de peur?
D'accord, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, il y avait un côté sécurisant pour moi quand j'étais, donc quand je travaillais dans la multinationale. Déjà d'un point de vue financier, j'avais de quoi, voilà, aussi économiser. Donc, j'avais des économies d'un point de vue financier. J'avais mon rythme aussi qui était cadré avec des livrables, des dates, des réunions, etc. précises, à une certaine fréquence. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Mais disons que... en fait, ce que vous me demandez, c'est des conseils, c'est ça?
Comment vous avez fait pour gérer? Donc, vous n'êtes pas sorti. D'abord, vous avez, entre guillemets, assuré vos arrières financièrement.
Voilà, okay. Exactement.
Mais pour quelle durée aussi?
Pour quelle durée? Exactement, pour quelle durée? C'était très compliqué parce que je me suis rendu compte que pour faire ce projet, il fallait. Beaucoup avancer, investir et disons que les retours n'étaient pas sur le champ. Les retours sur investissement n'allaient pas être sur le champ.
Direct.
Donc, j'ai pu aussi, échelonner les investissements de manière plus rationnelle en suivant exactement mes dépenses, essayant toujours d'étudier avant de dépenser, donc c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'essayer de prévoir en fait les dépenses qui vont avoir lieu au moins sur l'échelle d'une année avant de pouvoir se lancer dans un projet, parce que c'est important de se dire qu'au départ, les retours ne seront pas immédiats. Donc, il faut pouvoir les assurer, ces arrières, sur une certaine échelle de temps. Aussi, disons que d'un point de vue cadre, c'est important de se fixer aussi des objectifs court terme et sur le long terme. Parce que c'est grâce à ces objectifs-là aussi qu'on arrive à avancer et des objectifs qu'on pourrait aussi, et ne pas hésiter à les dépasser, ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est très important d'étudier en avance, je pense, aussi tout ce qu'on on compte faire, d'étudier dans le sens où il faut étudier le marché, parce que je me suis lancée dans ce projet, j'ai quand même étudié le marché, j'ai visité plusieurs fermes, j'ai beaucoup discuté, parler du projet aussi autour de soi, c'est important parce qu'on apprend aussi beaucoup de l'expérience des autres dans un premier temps. Et essayer, il faut essayer. Moi, je me rappelle le conseil qui m'avait poussé à avancer, c'était, je me souviens, mon mari qui m'a dit, mais essaye, arrête de te poser trop de questions. À un certain moment, c'est bien d'étudier, mais il faut mettre le pas dedans. Il faut y aller, essayer. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est aussi un apprentissage. Donc, voilà.
Alors, aujourd'hui, vous faites quoi exactement ?
Alors aujourd'hui, je cultive au sein de ma ferme, donc ces légumes et ces fruits. J'ai aussi de l'aide, donc des personnes qui sont des ouvriers agricoles qui m'aident à cultiver la terre.
Donc aujourd'hui, vous avez votre propre ferme, vous avez acheté un terrain, etc.
Non, je loue un terrain. C'est compliqué. Ouais. Donc là, je loue un terrain agricole. J'y cultive donc des légumes et des fruits de manière naturelle. Donc les fruits, c'est un peu plus compliqué. Donc il n'y a pas toujours le choix dans la production des fruits. Mais j'essaye de développer des partenariats avec des fermes qui sont, elles, spécialisées dans la production de fruits biologiques. Je propose aussi à mes clients des produits transformés, donc par exemple des chips de légumes. Donc j'essaie de donner aussi de la valeur ajoutée aux choses que je produis au sein de la ferme.
Et vous aimez tout ça ? Vous aimez cette nouvelle vie ?
Ah, j'adore. C'est-à-dire que si je devais... finalement, au départ, je me disais que je vais aller vers l'entrepreneuriat. Peut-être avoir aussi plus de temps pour ma vie personnelle. Et en fait, au final, comme je suis quelqu'un, disons, une hard-working girl, woman, depuis toute petite, je ne sais pas m'arrêter. J'adore ce que je fais, je le fais toujours par amour. Même quand j'étais dans la multinationale, je faisais toujours les choses avec le cœur. Et d'ailleurs, ça m'a joué un peu des tours parce que c'était difficile dans la période Covid. J'étais au bord du burn-out. C'était difficile. C'est là où je me suis posé beaucoup de questions. Donc là, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. La différence avec quand j'étais dans le salariat, c'est que disons que je choisis les moments où je... Oui, peut-être que c'est aussi ça. Je n'ai pas une entité supérieure qui va me dire... C'est pour tel jour, il faut que ce soit comme ça.
Oui.
Je suis.
Mais là, l'entité supérieure, c'est la nature, c'est le climat, c'est la météo.
Yek. Exactement, là, c'est ça. C'est l'entité. Mais alors, cette entité, elle est inattendue, disons.
Oui,
c'est ce qui est magique, c'est incroyable. Autant dans une entreprise, c'est. On le sait à l'avance. Il n'y a pas beaucoup de facteurs exogènes.
Oui.
Donc, ils sont moins fréquents. Quand il y a eu la crise Covid, pour le marché, c'était aussi autre chose, mais ça n'arrive pas tous les jours. Là, la nature, c'est vrai que ce facteur est très présent. Mmh. Mais quand on donne de l'amour dans ce qu'on fait, même aux plantes, on le ressent et on le voit. C'est ce qui est merveilleux. Ce que j'adore, en fait, dans ce métier-là, c'est aussi la connexion. Moi, je suis très croyante et très, disons, j'ai la foi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que je suis en constante connexion avec le divin dans la nature.
Je comprends.
C'est magique.
Alors, peut-être pour finir, la période de Covid a fait réfléchir beaucoup de personnes, a fait changer des caps de vie. C'est le moment, justement, 3 ans après, de faire ce bilan, de se dire, ces personnes qui ont changé de vie, est-ce qu'elles le regrettent ou pas ? Vous, j'imagine, c'est pas du tout.
Ah, pas du tout. Je ne regrette pas non plus le avant, parce que ça m'a beaucoup appris. C'est-à-dire, le fait de passer dans cette entreprise a été très enrichissant pour moi. C'est ce qui fait qu'aussi tout le côté marketing, tout le côté, disons, communication, gestion, donc j'ai acquis beaucoup de compétences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que c'est... C'est-à-dire que, je ne regrette rien du tout. Et c'est que chaque chose qui est arrivée au bon moment. Alhamdoulilah, je suis vraiment dans le hem de chaque chose. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse de ce shift.
Alors, peut-être aussi, est-ce que ça a été compliqué, le fait d'être femme, est-ce que c'est compliqué dans ce milieu ?
Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que c'est un milieu très masculin.
Ouais.
Surtout avec les ouvriers agricoles, on m'avait beaucoup dit attention, Samia, voilà, il faut pouvoir asseoir entre guillemets ton autorité et surtout pouvoir en fait expliquer aux gens comment faire les choses, etc. En fait, c'est parce que dans le milieu agricole, la plupart des ouvriers agricoles, on travaille dans des fermes qui sont conventionnelles. Donc, ils ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et moi, dans ma vision, et voilà, en suivant les principes de permaculture, il y a beaucoup de choses qui diffèrent du coup. Et donc, pouvoir expliquer à ces gens-là qu'il faut faire autrement, c'est pas toujours facile. Mais j'ai suivi le conseil d'une personne qui m'avait au début donc aidée. M'a dit, Samia, surtout recrute des gens qui savent rien, même qui sont pas du tout dans le milieu agricole, pour pouvoir justement. Pour qu'ils adhèrent plus facilement à ce que tu veux. Mmh. Il faut juste que ce soit des personnes qui soient, qui aiment travailler la terre et c'est tout. Enfin, qui aiment le contact avec, qui soient manuels, disons plutôt. Qui soient manuels et qui soient ouverts d'esprit. L'ouverture d'esprit est très importante. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé.
Donc vous avez vraiment monté votre propre équipe.
Exactement. Ouais. C'est ce que j'ai fait.
C'est ça. Samia Benjelloun, merci infiniment d'avoir partagé avec nous l'histoire de la vallée des sens. C'est une jolie appellation, justement. Les sens olfactifs, j'imagine, le toucher, mais aussi le sens moral de l'histoire.
Exactement, voilà. Vous avez aussi compris pourquoi je l'ai appelée vallée des sens. D'ailleurs, vallée, c'est parce que le terrain que je loue, c'est les sous-formes d'une vallée, mais les sens, c'est surtout parce qu'on met en jeu pleinement nos sens quand on est en contact avec la nature et c'est magnifique, en fait.
Merci beaucoup, Samia. On sent vraiment... Moi, j'arrive à sentir cet épanouissement et cette joie et presque ce sentiment que vous avez de jouer au quotidien, en fait.
Voilà.
Avec la terre.
Oui, exactement. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait aussi plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, merci.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.